les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Jusqu'à 8h, on se consacre exclusivement à vos espaces verts et à vos petites plantes chéries. Entre soleil et pluie, nous sommes là pour illuminer votre session jardinage avec Mylène. Bonjour Mylène.
Bonjour Sophie, c'est le week-end et pour bien le démarrer, on fait le plein de bons conseils jardinage. Il est là de bon matin, lui aussi, c'est Philippe Détra, horticulteur bio au Jardin des Senteurs à Neuchâtel qu'on accueille ce matin. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Mylène.
Nous sommes le 8 juin 2019 et on se régale avec des températures estivales et printanières, on ne sait pas trop. Hein. Mais que faire à l'approche de l'été? Eh bien, on fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Philippe Détra.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter avec Philippe qui pourra vous répondre personnellement. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin, un espace suivi de votre question, le tout au 939. Et sinon, il existe aussi un formulaire que vous trouvez sur nos sites sous l'onglet émission questions au jardin. Jardinière. Si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Eh bien, on vous a tout dit, les jardinières, c'est parti.
7h, 8h, les jardinières.
Et on commence tout de suite avec des plantes d'intérieur. C'est Monique de Courtaillot qui nous dit qu'elle est à la recherche d'une belle plante d'intérieur avec une fleur, mais qui n'est pas une orchidée. Alors, quel conseil pouvez-vous lui donner, Philippe ?
Quelque chose qui tienne longtemps dans un appartement. Moi, je penserais sans orchidée, effectivement, mais je penserais à l'anthurium. Un anthurium ou un spatifilum, éventuellement. Le spatifilum ayant une fleur blanche avec une espèce de spat au centre. Enfin, non, c'est un spat avec un spadis au centre, si on veut.
Un macaroni, un peu.
Ouais, si on veut. mais pas en tortillé. Et puis, ça, c'est des plantes vertes qui tiennent relativement bien en appartement. L'anthurium, c'est de la même famille. C'est la même version à peu près, mais en rouge ou en rose ou en d'autres couleurs.
Alors, on va prendre note de ces deux plantes pour éviter de temps en temps les orchidées. Ça change. Peut-être elles sont plus faciles d'entretien, non ?
Non.
Parce que moi j'ai ce truc blanc là avec le
spatifilum.
Voilà, il va bien, hein, ça fait des années qu'on l'a. Par contre, j'ai reçu une orchidée au bout de 6 mois, il n'y avait plus de fleurs, elle a claqué.
Oui, mais elle n'est pas forcément morte, c'est pas parce qu'elle n'a plus de fleurs qu'elle est morte. Donc,
bon, alors toutes mes excuses à cette orchidée que j'ai balancée au compost.
Elles refleurissent en général chaque année, les orchidées.
Voilà, d'accord. C'est bon à savoir. On va parler d'aloe vera, hein, c'est un peu votre plante chouchou. Nadine nous contacte, elle aimerait savoir comment faire pour cultiver l'aloe vera, comment l'arroser, à quel endroit la placer, bref, comment la cultiver.
Alors, j'ai une petite passion pour les aloés, mais pas que l'aloe vera, parce qu'il y a des centaines d'espèces, et là j'ai une petite collection, mais la façon de les entretenir n'est pas comme un cactus, même si on les prend des fois pour des cactus. Les cactus sont des plantes grasses qui résistent super bien à un manque d'arrosage, donc vous pouvez partir tranquillos un mois, deux mois en vacances. Et puis, sans devoir les arroser, alors que les aloe vera, non, elles demandent un petit peu plus de soins. Un tout petit peu d'eau, mais chaque semaine. Voilà, donc ça reste une plante grasse, mais puis un maximum de lumière.
Pour avoir une belle plante d'aloe vera, puis d'ailleurs, si vous en cherchez, hein, des différentes sortes, on peut venir chez vous.
Je ne faisais pas de pub.
C'est moi qui le dis, parce que j'ai d'ailleurs acheté une plante chez vous. Voilà. On va faire une pause musicale. On rappelle vos questions, vous pouvez nous les poser par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question que vous envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission question aux jardinières. Voilà, je vais y arriver.
Voilà, il nous faut une petite pause, hein, c'est Amy McDonald tout de suite.
Les jardinières.
Et on poursuit dans les jardinières avec une question qui nous vient de Lucas de Porrentruy qui possède un plant de thym. Il aimerait le déplacer pour le replanter en bordure de son potager où l'endroit est plus accessible. Mais à cette période, est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il risque de mourir à cause de la replantation? Comment s'occuper d'un plant de thym, Philippe Détrin?
Alors d'abord, pour la replantation ou la transplantation, actuellement c'est tout à fait faisable. Mais il faut se dépêcher parce qu'on n'est pas encore dans les grandes chaleurs. Et c'est dans les grandes chaleurs qu'il faut éviter de transplanter des plantes parce qu'elles souffrent énormément. Maintenant, ce thym, je ne sais pas s'il est jeune ou s'il a 5, 10 ans. Alors, une plante qui a un petit peu plus de 5 ans, en principe, c'est difficile à transplanter parce qu'elle a des racines qui se sont éparpillées un petit peu dans la terre. C'est normal, elle va chercher de l'eau. Si on coupe ses racines, évidemment, la plante va souffrir. Donc, si c'est une vieille plante, moi, j'éviterai de le faire. Voilà.
J'aimerais une question sur le thym, parce que moi j'en ai à la maison, j'en utilise pas beaucoup, et du coup il fleurit. Ouais. Les fleurs, s'il y en a dans ma cuisine, c'est grave, c'est mauvais, parce qu'elles sont belles. Hein.
Dans la cuisine?
Non, si je cuisine avec, par exemple, je prends une branche de thym, puis il y a une fleur qui...
Ouais, pas de souci.
Ça se mange aussi?
Ouais. Et puis c'est une labiée, hein, comme les sauges, comme les romarins, comme les origans, comme... les lavandes et autres, donc franchement c'est des plantes qui sont absolument pas jamais nocives,
okay.
Sauf à grande quantité pour éventuellement de la sauge ou pour des dames qui sont enceintes ou voilà.
Vous voilà rassurée, Mylène.
Oui, pour manger mes fleurs de thym, je suis contente.
Et c'est sucré.
On va parler d'un poirier, c'est Françoise de la Neuville qui se pose la question. Elle trouve que les feuilles de son poirier sont gluantes et recroquevillées. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une attaque de pucerons?
De pucerons, je pense pas. Je pense à peut-être autre chose, mais j'ai un petit blanc. Donc si vous permettez, je vais vite faire une petite recherche de mon petit cerveau. Et puis on peut éventuellement revenir là-dessus dans quelques secondes.
On reviendra avec le poirier, du coup.
On pourrait profiter pour faire une pause musicale, Sophie. Rappeler comment nous joindre.
Exactement,
on va faire
une petite pause musicale, mais avant, on rappelle, donc si vous avez des questions, vous nous appelez au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS au 939, vous indiquez le mot jardin avant votre message, hein, sinon il ne nous parvient pas, et sinon vous pouvez encore trouver le formulaire sur notre site internet, sous l'onglet émission questions jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Il y a quelques instants, on parlait d'un poirier, celui de Françoise de la Neuville, dont les feuilles sont gluantes et recroquevillées. Elle pensait peut-être à une attaque de pucerons. On a posé la question à Philippe qui devait chercher dans sa tête. On revient vers vous, Philippe. Alors, est-ce que vous avez peut-être une ébauche de réponse pour le poirier de Françoise?
Bon, moi, je dirais que ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle gluant. Je pensais éventuellement à des mucus de différents... insectes qui peuvent éventuellement rendre les feuilles gluantes. Peut-être qu'elle veut juste dire collantes. Si les feuilles sont collantes, effectivement, c'est qu'il y a des parasites comme des pucerons, ou il y a des cochenilles. Les cochenilles qui sont comme des petites... comme des pucerons, mais avec une carapace. Et qui sont assez courantes sur des arbres fruitiers. Donc ces insectes émettent du miel là, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu mielleux et collant. Et donc il faut chercher la cause. Donc si c'est collant, c'est qu'il y a des insectes parasites juste en dessus. Et donc il faut lutter contre ces insectes d'abord.
Avec par exemple des coccinelles.
Avec par exemple des coccinelles, ouais, tout à fait. Et que les fourmis vont embêter les coccinelles, parce que c'est vraiment la guerre dans le jardin. Hein, les fourmis adorent ce miel-là. Et donc elles vont protéger les pucerons contre les coccinelles.
D'accord. Ah, c'est la guerre en fait.
C'est la guerre. Et sur ce miel-là peut se développer un champignon qu'on appelle la fumagine, qui vient noir. Ça fait un champignon qui n'attaque pas la plante, mais qui empêche la photosynthèse de se faire. Donc la plante est embêtée pour survivre.
Donc il faut vraiment que Françoise regarde les causes pour trouver la bonne solution. Sophie, vous avez une personne en ligne. Je crois qu'il y a aussi une question sur un arbre, peut-être.
Aussi une question sur un arbre, c'est Marie-Claire qui a des soucis avec son prunier qui a des feuilles un peu recroquevillées. Marie-Claire, vous êtes avec nous ?
Oui. Alors, oui, je voulais demander à M. Jardinier, j'ai plusieurs arbres des pruniers qui sont tout malades cette année. Elles sont, comment je peux dire, les feuilles sont toutes recroquevillées, elles sont bosselées, on dirait que c'est frisé. Mais il n'y a pas de puceron, il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi. Ou qu'est-ce qu'on pourrait me conseiller de les traiter, avec quoi ?
Où est-ce que vous avez regardé pour trouver des pucerons ?
Ah ben, j'ai regardé sous les feuilles, déroulé les feuilles et puis j'ai regardé, mais puis le long de la tige, mais il n'y a rien du tout.
Ouais. Alors effectivement, moi j'aurais regardé déjà, comme vous l'avez fait, sous les feuilles, parce qu'en fait, souvent, quand il y a des pucerons, il y a des piqûres qui empêche les cellules de se développer correctement, et puis la plante se recroqueville. Ça, c'est la première cause que je verrais à ce recroquevillement des feuilles. Maintenant, n'étant pas arboriculteur, ni monsieur jardinier, juste un jardinier un petit peu éclairé, mais moi, j'irais chez un arboriculteur ou éventuellement chez un pépiniériste ou une jardinerie qui vend des arbres, parce que là avec des rameaux peut-être de vos plantes, de façon à pouvoir bien trouver ce que c'est, enfin où est la cause. C'est toujours la cause, le problème, je peux pas vous dire, ben voilà, vous traitez avec ci ou avec ça, il faut vraiment savoir de quoi provient le problème.
D'accord.
Je suis désolé, je peux guère plus vous en dire.
C'est pas grave. Alors, je vous remercie beaucoup pour le conseil. Merci, au revoir, bonne journée.
Merci pour votre appel, bonne journée.
Merci d'avoir appelé, bonne journée. On va faire une pause pour parler de la météo et de l'inforoute, mais les jardinières restent dans le coin, elles ne sont pas loin. Vous pouvez toujours nous appeler 0900 70 20 20, 36 centimes la minute, vos questions par SMS. Jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet.
À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières,
De retour dans les jardinières, c'est samedi, le jour où on se consacre au jardin. Avant de vous y rendre et de vous exposer au soleil, eh bien vous pouvez profiter pour nous exposer toutes vos questions. On tentera d'y répondre avec Philippe Détra, horticulteur bio au Jardin des Senteurs de Neuchâtel. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Pardon, j'étais censée faire une suite, j'imagine. Voilà.
Vous faites la suite, effectivement.
Voilà, j'ai trouvé la faille. Et surtout, n'oubliez pas que Les Jardinières, c'est une émission qui est grâce à vous. Toutes vos questions sont les bienvenues. On rappelle le numéro 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel, Philippe Détra. On lit également toutes vos questions reçues par SMS. Pour rappel, il suffit d'indiquer le mot jardin, un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939 et sur notre site, vous trouverez aussi le formulaire à remplir sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et juste avant la pause météo, inforoute et musique, on a eu une question de Marie-Claire sur des pruniers. Et Philippe, je crois que vous avez une petite information en plus à ajouter à votre réponse.
Ouais, j'ai pensé tout d'abord au puceron, effectivement, qui avait attaqué le prunier, qui provoque par ses piqûres les recroquevillements des feuilles. Marie-Claire, c'est ça, Marie-Claire, a regardé, elle a regardé dessous les feuilles, et elle n'a pas trouvé de puceron, ce qui serait assez logique, parce qu'en fait, les premiers pucerons attaqués très tôt au printemps, et puis là, ils ne sont plus là. Ah, donc, ils ont fait des bébés qui sont ailés et qui sont probablement allés voir ailleurs. Donc c'est vraiment presque sûr que c'est dû à des piqûres de pucerons, mais des pucerons qu'on ne voit plus parce qu'ils ne sont plus là.
Ouais. Et du coup, maintenant, elle peut quand même traiter, parce que les pucerons sont partis.
Disons que traiter contre des pucerons qui ne sont plus là, ça ne sert à pas grand-chose.
Voilà. Donc, il faut donner un peu d'engrais à ça.
Disons, les dégâts sont faits. Hein, la plante ne va pas refaire des feuilles, elle ne va pas redérouler, enfin, redérouler ses feuilles. Les piqûres sont là, donc la feuille a été attaquée. Et il faut peut-être un petit peu surveiller les alentours pour voir s'il y a d'autres pucerons. Mais je rappelle que, comme le disait Mylène tout à l'heure, le meilleur allié, c'est la coccinelle.
Donc Marie-Claire partait à la recherche de coccinelles. On va parler de petits pois. Une personne a planté de petits pois. Elle nous disait que tout allait bien, mais hier, elle a vu que le centre des plants était desséché. Est-ce que ça peut être lié à trop d'arrosage ou pas assez? Une question de Catherine.
Oups, alors là... C'est rude.
Philippe ne mange pas de légumes.
J'adore les asperges, mais voilà les petits pois. Là, franchement, je peux pas répondre à ça parce que les causes d'un dessèchement peuvent être très divers. Et ça peut être effectivement le sec, comme ça peut être un excès d'eau qui fait pourrir les racines. Et s'il y a plus de racines. Il n'y a plus de légumes. Donc très difficile, il faudrait voir la chose.
Donc on va continuer, on va laisser les petits pois de côté du coup, et on va continuer avec une question de Marie-Claude de Moutier. On parle toujours de feuilles, hein, c'est des feuilles de tomates cette fois-ci, qui montrent des taches blanches mais qui ne se recroquevillent pas. C'est la première fois que ça lui arrive, elle a paillé, elle arrose tous les 3 ou 4 jours, et elles sont en plein soleil toute la journée quand il y a du soleil. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter ces taches blanches sur ses feuilles de tomates ?
Alors, des taches blanches, à cette époque, c'est peut-être dû à... c'est difficile de dire, là aussi. Il faudrait les voir, ces taches. Moi, je pense d'abord à un coup de soleil. Un coup de soleil, donc, ça m'est arrivé il y a quelques années où on n'avait pas eu le temps de les planter au bon moment. Et puis, on les a plantées vraiment au pire des moments, c'est-à-dire quand il faisait très, 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 très beau. Voilà, donc après elles ont brûlé, donc on a des feuilles qui ont brûlé. Je vois pas vraiment d'autres raisons pour des taches blanches, mais je peux revenir là-dessus dans quelques secondes si vous voulez.
On va donc enchaîner avec. On va parler encore du radis. Sophie, ça vous va?
On va parler encore du radis.
Philippe, il y a une personne qui aimerait planter des radis. Est-ce qu'elle peut encore en planter maintenant?
Ok, alors je vais pas être méchant, mais ça se plante pas les radis.
Ça se sème.
Ça se sème.
Voilà.
C'est comme les carottes, hein, on va pas planter les carottes. On sème, c'est le genre de légumes qu'on sème normalement.
Ah, on ne plante pas des carottes.
Non, on plante pas des carottes.
Ok.
Vous pouvez trouver, parfaitement bien encore semer des radis ou des carottes, il n'y a pas de problème en ce moment. Il faut trouver des variétés qui sont adaptées à cette saison. Mais on est qu'au début juin, donc c'est vraiment le printemps encore. Donc il n'y a pas de souci.
Et ça pousse plutôt vite, hein?
Oui, tout à fait.
2-3 semaines, c'est prêt.
Ouais, ouais.
On va faire une pause musicale, Sophie. Est-ce que ça va pour vous?
On va écouter du coup Julien Clerc et son cœur de rocker. Mais je vous rappelle que si vous voulez nous joindre pour poser votre question, eh bien vous pouvez le faire par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez nous envoyer un SMS au 939 en n'oubliant pas le mot jardin avant votre message. Et vous pouvez encore trouver un formulaire sur notre site internet. Donc, pas d'excuses, vous pouvez toujours trouver un moyen de nous poser votre question.
Les jardinières.
Les jardinières sont avec vous encore un petit quart d'heure. N'hésitez pas à poser vos questions. On les attend au téléphone, par exemple, au 0901 70 20 20. Mais pour l'heure, nous allons parler de rhubarbe. Isabelle nous dit qu'elle a un pied de 3 ans, donc de rhubarbe. Hein. Et il ne grossit pas. On m'a dit de le déplacer. Ça fait 3 fois que je le change de place, mais c'est toujours pareil. Rien à faire. Pouvez-vous m'aider?
Alors la rhubarbe, on dit en général qu'il faut 2 à 3 ans pour qu'elle se développe une fois qu'elle est plantée. Et on ne devrait pas la toucher, c'est-à-dire on ne devrait pas prendre des feuilles, il faut vraiment la laisser s'installer tranquillos. Et en plus, il faudrait supprimer les inflorescences. Donc si elle la touche, si elle la déplace chaque année ou tous les 2 ans, elle va reporter le problème tout le temps, quoi. Donc il faudrait vraiment la laisser en place et puis la laisser s'installer tranquillement. Il lui faut un peu de temps.
Et c'est quoi une bonne place pour une rhubarbe? Plutôt ouais. Plein soleil, un peu d'ombre?
Écoutez, on en a avec mes parents. Je me souviens quand j'étais gamin, quoi. On avait une tapée de rhubarbe, quoi. Et mon papa, il s'en occupait, il les vendait au marché. Et en fait, on en avait au soleil et à mi-ombre. L'avantage de l'avoir à deux endroits différents, c'est que ça donne pas en même temps. Ça, c'était une histoire de précocité. Et puis, je me souviens aussi qu'au printemps, il leur donnait à manger, c'est-à-dire de l'engrais. De l'engrais qu'on peut trouver en bio aussi, hein, y a pas de souci, c'est des engrais qui sont tout à fait organiques, non chimiques. Et la plante, elle a besoin de manger. Si on veut qu'elle pousse, il faut qu'elle mange. C'est comme nos enfants.
Est-ce que, par exemple, on pourrait lui donner du purin d'ortie? Ça aiderait?
Ouais, alors on arrive sur un terrain un peu glissant là avec les purins ou les tisanes de plantes, parce qu'en fait on n'a pas le droit vis-à-vis de la loi, on n'a pas le droit de parler d'engrais ou de produits phytosanitaires avec des purins d'ortie. Donc on trouve des termes un tout petit peu plus détournés, comme stimulant par exemple.
Voilà, est-ce que c'est un bon stimulant pour...
Absolument.
D'accord, vous voulez stimuler votre rhubarbe, hein, un peu de purin d'ortie. Sophie, on a reçu un message.
On a reçu un SMS de Marie qui nous dit qu'elle a un grand coin d'ortie dans son pré. On lui a dit de faucher et de semer du trèfle par-dessus pour qu'elle ne repousse plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Alors, j'ai aucune connaissance sur l'effet du trèfle sur les orties. Moi, je pense que l'ortie, elle va repousser de toute façon, parce que elle est vachement vivace, quoi. Donc, soit elle se ressème, soit elle fait des stolons, des repousses, des rejets. Maintenant, est-ce que le trèfle va être plus fort que l'ortie? Ça, c'est une chose à expérimenter.
Parce que c'est quand même une plante qui est assez abondante aussi, trèfle.
Ouais, alors le trèfle, après il y a trèfle et trèfle, il y a des trèfles annuels, il y a des trèfles vivaces. Le trèfle a un effet très bénéfique aussi, c'est qu'il absorbe, avec l'aide d'une bactérie, il absorbe l'azote qui est dans l'air, et il y a quand même à peu près 80% d'azote qu'on respire tout le temps, et qui n'est pas utilisable par les plantes. Et la bactérie, en association avec le trèfle, va transformer cet azote de l'air en azote utilisable pour les plantes suivantes.
Alors, feu pour le trèfle.
Ouais, c'est pas mal, mais attention, il y a le trèfle vivace, c'est quand même un petit peu embêtant aussi.
On va revenir sur cette question de Marie. Quel conseil pour virer les orties définitivement?
Pouf. Moi je les vire pas, parce que je les coupe et puis je fais du purin d'ortie.
Ou de la soupe.
ça dépend quelle ortie, mais en principe, si c'est une ortie vivace, c'est la bêche, l'huile de coude.
Voilà.
Et puis sortir toutes les racines.
Et de la patience.
Et voilà, Marie, il va falloir sortir votre bêche. On a le temps encore pour poser une question à propos des patates douces. Une personne qui se demande à quelle méthode faut-il les planter avec quelle méthode de plantation. J'imagine que c'est une personne qui a envie de manger des patates douces. Bon, peut-être pour cette année, c'est trop tard déjà.
Bon, là, je suis un petit peu coincé avec les patates douces, parce que je l'ai fait il y a 30 ou 40 ans au jardin botanique. Puis moi, j'aime pas ça, quoi. Donc, j'ai pas vraiment persévéré. Donc, moi, je pense que c'est peut-être un petit peu tard pour les planter, mais j'ai pas de grandes connaissances sur la patate douce. Je suis navré.
On va mettre la question de côté.
De côté, effectivement, pour la semaine prochaine.
On va parler de roses. Tiens, voilà, des roses pour Philippe. Une personne qui a acheté de jolies petites roses dans des pots en plastique dans un grand centre commercial de couleur orange. Elle les a dépotées dans des pots un peu plus grands et après 2 semaines, la jolie couleur rose a tourné en vert pâle. Elles ne sont pas fanées, juste vertes. Est-ce qu'elles manquent de nourriture? Si oui, laquelle? Merci de votre réponse et conseils. C'est une question de Ursula.
Alors, je suis un petit peu coincé là aussi par les changements de couleur. Probablement que les fleurs ont pâli avec... elles n'ont pas fané, mais en évoluant, elles ont probablement pâli. Je ne vais pas être méchant avec les enseignes orange. Mais je pense que si on veut acheter des plantes, je pense que sérieusement, il faudrait... aller plutôt chez des professionnels. Là, je pense
pas de surprise, elles vont pas changer de couleur du coup.
Peut-être, non, probablement moins, et puis vous allez avoir des conseils plus avertis.
Merci Philippe. Sophie, on a reçu une question via formulaire.
Oui, via le formulaire, c'est Valérie qui nous a écrit, qui nous dit qu'elle a des rhododendrons au jardin et chez certains, les feuilles sont devenues brunes et elles sont devenues sèches et l'arbre ne fleurit plus. Elle a rajouté de la terre de bruyère et elle a arrosé en vain. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'elle doit ajouter de l'engrais spécial pour rhododendrons? Est-ce qu'elle doit couper ce qui est sec? En gros, qu'est-ce qu'elle doit faire?
Alors, rajouter de la terre de bruyère, c'est une excellente chose, mais si la plante a été plantée dans de la pleine terre de jardin, le mal est déjà fait. Parce que le rhododendron a besoin d'un sol acide, ce qu'on amène avec la terre de bruyère. Donc il faudrait, quand on plante des rhododendrons, faire un bon gros trou et puis ne mettre que de la terre de bruyère avec de la tourbe, enfin voilà, des choses acides. Le sol que nous avons dans le Jura, au pied du Jura, sur le plateau, est en général calcaire. Donc c'est relativement...
Ouais. Elle vient de l'Union, donc sur le Vuy, si je ne me trompe pas.
Ouais, bon, ça reste le plateau ou voilà. Le pied du Jura, oui, ou pas très loin du pied du Jura. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un sol acide. Donc, probablement que si ça a été planté dans de la pleine terre, ça ne suffit pas de rajouter de la terre de bruyère. Il faudrait vraiment carrément les déplanter et les replanter dans un trou.
Assaisonné à la
terre de bruyère.
Et du coup, si elle les replante quelque part, enfin, elle doit couper quand même ce qui est sec ou...
Ouais, probablement, mais le mal est peut-être trop important pour que ce soit rattrapable.
On croise les doigts et on espère que quand même les rhododendrons vont survivre, donc les déplacer dans un sol acide et puis croiser les doigts. Il est 7h55, ça file.
Ça file, effectivement, pardon Mylène. On va donc passer à la dernière question habituelle. On est le 8 juin, c'est temps entre soleil et pluie, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin à ce moment-là, Philippe?
Alors, dans mon cas, je vais désherber déjà, parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc là, les pousses, ça pousse à une vitesse folle, les mauvaises herbes. Après, ben, probablement que vous avez déjà planté pas mal de choses, donc il faut bien penser à arroser si on a une période de sécheresse. Et puis, leur donner à manger, comme je l'ai déjà dit pour la rhubarbe tout à l'heure. Le printemps, c'est le moment où les plantes poussent. Donc si elles poussent, elles ont besoin de manger. Ça, faut pas oublier. Et même si on est en bio, j'entends, faut pas rêver. Hein, j'entends, l'amour et l'eau fraîche, ça fait pas pousser les plantes. Enfin, pas très longtemps. Voilà. Donc, donnez à manger à vos plantes. Et puis, évitez d'avoir des mauvaises herbes tout autour. Même si on dit que c'est des herbes qui sont peu connues et puis qui sont probablement utiles, mais elles servent aussi de refuge à des parasites, à des champignons de toutes sortes. Donc voilà, l'entretien principalement.
Merci Philippe, merci de vous être levé si tôt pour répondre à toutes ces questions. On vous souhaite une belle journée, puis on vous dit à bientôt.
Merci, et bon été.
Merci. Les jardinières reviennent évidemment la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous jardinage avec Jean-Pierre Ribaud. Mais si vous avez des questions, eh bien ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'à samedi prochain. Vous pouvez les poser dès maintenant par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites internet. Ces questions seront évidemment traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h. Les jardinières.